Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, soit en direct à la radio tous les matins à 6h, soit en passant par le podcast ou l'écoute en ligne. Le Réveil Culturel est une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Valérie Lavalard. Et tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et des romans graphiques. Et aujourd'hui, on va parler d'une bande dessinée qui met en vedette un pirate, mais surtout s'amuse d'une manière jouissive à déjouer tous les codes des histoires de flibustiers qui ont fait notre bonheur, notamment à travers les romans d'aventure de Stevenson ou les films hollywoodiens. Un pirate, oui, mais de la pire espèce, cruel et alcoolique. Et même pas bagarreur, ce grand feignant. Portrait d'un buveur est le titre de cette bande dessinée éditée par Dupuis dans sa collection Air Libre et elle est signée par le duo Rupert et Mulot avec la participation de leur alter ego flamand Olivier Schrauen, une autre bonne référence de la bande dessinée avant-gardiste.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Rupert et Mulot.
Bonjour.
Bonjour.
Guy, il s'appelle Guy, notre pirate. Il est affreux, sale et cruel, pleutre, paresseux et alcoolique. Il s'appelle Guy, c'est un pirate à sa manière. Pourtant, le titre de cette bande dessinée est Portrait d'un buveur.
Oui, parce que effectivement, ce personnage, en fait, il devient pirate. Et en fait, ce qu'il qualifie plus, c'est plutôt d'être un malfrat, en fait. Le point de départ de ce bouquin, c'était quand je crois que c'est, je sais plus il y a combien de temps, mais Jérôme il lisait L'île au trésor et il m'a conseillé de le lire aussi. C'était à un moment donné où j'avais du mal à lire, je crois que c'est à cause de Facebook. Enfin, j'ai commencé ce livre, j'ai lu pour la première fois et effectivement on s'est rendu compte que L'île au trésor, donc qui est le livre qui a à peu près posé tous les jalons du genre pirate. Le genre existait avant lui, mais c'est lui à peu près qui a un peu tout cristallisé, tous les ingrédients, tous les éléments. Et on s'est rendu compte en lisant que, en fin de compte, toutes les productions qu'on pouvait voir ou lire ou Le Pirate des Caraïbes par exemple, il y avait quelque chose qui manquait. Un ingrédient important qui manquait, c'est que, en fin de compte, tous ces pirates qu'il y a dans l'île au trésor, eh ben, c'est des salopards. Et en fait, ils sont tous sincèrement horribles, ils font vraiment peur, ils sont vraiment lâches, ils sont vraiment dans des rapports d'humiliation, de domination des uns des autres. Et effectivement, ce côté un petit peu dur et presque réaliste, en fait, on le retrouvait pas, en fait, et on s'est trouvé que c'était une sorte d'injustice, et on s'est dit qu'on allait un petit
Vous
peu
voulez
pallier.
Dire qu'on a idéalisé la figure du pirate.
Édulcoré, ouais. On l'a rendu un peu gentil.
Et on a enlevé sa capacité de boire beaucoup de rhum, et que cette ivresse leur permet de faire des choses sans laquelle, sinon, ils seraient incapables de faire la bagarre et de sauter d'un bateau à l'autre et de manier le sabre s'ils n'étaient pas un petit peu ivres.
Et pourtant, c'est ça qui nous plaît quand on voit un film d'aventure qui met en scène un ou des pirates. Il y a eu une grande exposition en 2002 où on a essayé de réhabiliter les pirates, où on se posait des questions, genre, est-ce que les pirates étaient des dissidents radicaux religieux? Est-ce qu'on pouvait traiter de la flébuste et de la piraterie comme une révolte sociale annonçant la Révolution française? Et vous revenez à nous dire, mais non, un pirate, c'est d'abord un voyou.
Ouais, tout à fait, parce que nous on parle du pirate qui vient de l'imaginaire. Nous on parle du pirate de l'histoire de pirate, qui est pas le même pirate que le pirate historique, le flibustier. Nous la tâche historique est très moindre. À vrai dire, on raconte la même chose que ce que les enfants quand ils jouent au pirate. On n'a pas on parle pas de l'aspect vraiment politique. On parle plutôt du genre. Et effectivement. L'ingrédient alcool dans le livre de Stevenson est hyper important. En fait, ils ont tous des maladies d'alcool et ils sont jamais courageux. C'est tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils sont sous, en fait. Et ils sont tous un peu à moitié fous. Et donc voilà, nous c'est ça qu'on a voulu mettre en scène.
Alors il s'appelle Guy, votre buveur, puisque le titre de la bande dessinée c'est Portrait d'un buveur, Rupert et Mulot. Et le mot que l'on puisse dire c'est que vous êtes très à l'aise quand il faut développer une histoire autour d'un anti-héros.
Et au-delà du genre que décrivait Florent, on a fait attention aussi à garder ce genre-là, mais un petit peu à côté, à garder le capitaine, le bateau, l'errance en mer, les îles désertes, etc.
Mais toutes les batailles, il y a de belles scènes de bataille. Ouais.
Mais en déplaçant un tout petit peu le point de vue et en s'attachant à garder en ligne de mire un personnage qui est très second voire troisième rôle, quoi, un petit gars, quoi, un mec, un petit pirate qui d'ailleurs à l'origine est juste engagé comme charpentier sur un bateau tout à fait régulier et qui se trouve embarqué dans cette histoire de pirate malgré lui, et aussi grâce à son ivresse qui lui permet donc d'avoir du courage, comme on disait. Mais notre attention s'est toujours portée à développer, à garder à faire le portrait de ce buveur là effectivement.
Il faut quand même rappeler que c'est qu'il tue, hein, c'est un assassin sans scrupules, quasiment sous du début jusqu'à la fin de cette histoire de 176 pages, on peut le dire aussi. Et puis surtout, vous venez de le dire, hein, ce pirate, ce Guy, qui embarque en tant que charpentier sur une goélette en partance pour un pays arabe, Jazira, je ne sais pas où ça se situe, où vous situez ce pays, mais en tout cas, on est loin des Caraïbes. Pourquoi ce choix d'ailleurs ?
Quand on fait une BD de genre comme ça, on joue avec les codes, mais on veut aussi renouveler un petit peu le modèle. Et le but, effectivement, c'est de, comme dit Jérôme, d'avoir un personnage, mais quand même un petit peu en décalage. D'avoir un personnage quand même, si vous voulez, par exemple, dans ces repas de famille, vous voyez, il y a une personne dont on s'intéresse généralement moins. C'est cet oncle, on sait qu'il est alcoolique, on sait qu'il tape probablement notre tante, il est plutôt, il parle pas trop dans les réunions de famille parce qu'il se cache plutôt, il boit tout doucement, il grommelle. Et il est lâche, et franchement, on est allé en vacances chez lui quand on avait 8-10 ans, mais on n'y est plus jamais retourné parce que ça se passe plus ou moins bien avec le reste de la famille. Oui, c'est un personnage un peu sombre, un peu glauque, un peu, en fait, franchement, sincèrement, dur, hein, d'avoir de la sympathie pour lui. Et ben voilà, lui, c'est un peu lui le personnage de notre livre. C'est-à-dire que, c'est un salopard, je pense qu'on peut le dire, mais on va essayer de trouver la beauté un petit peu dans un personnage comme ça, sachant que ça va être dur pour le lecteur de s'identifier, on le sait ça à l'avance.
Ouais, d'autant plus qu'il est suffisamment moche pour que personne n'ait envie de s'identifier à ce personnage.
Ouais, voilà, c'est ça, il est lâche en plus, et effectivement dans les romans de pirates souvent on a notre personnage principal est quelqu'un qui va bien manier l'épée, il va
faire des scènes.
Et là lui
jusqu'à Johnny Depp.
Voilà, lui va plutôt Guy va plutôt se cacher en fait. Effectivement, on a un personnage qui fuit l'action. Et pour nous, ça c'est intéressant d'avoir effectivement un personnage secondaire qui est pas moteur en fait de l'histoire. Les personnages moteurs, ils sont dans d'autres endroits. Et nous, ça nous permet d'avoir un personnage effectivement qui va aller dans des recoins, dans la cale, qui va aller toujours un petit peu à côté de la scène d'action. Mais ça va nous permettre de passer du temps avec lui, de le faire découvrir. Voilà, un petit peu les moteurs de sa personnalité. Est-ce qu'il a une personnalité aussi un petit peu un peu faux, si vous voulez, comme ces alcooliques qui ont des traits d'humeur, qui vont passer d'un état de très mauvaise humeur à de l'euphorie bête et méchante. Voilà, c'est un petit peu un personnage comme ça qu'on a voulu décrire.
Voilà, ça c'est pour Florent. Jérôme Hulot, s'il fallait continuer ce portrait de votre buveur, de votre pirate, de ce Guy.
On le décrit aussi comme un personnage lâche, mais violent et tout ça, mais il y a aussi une forme d'humour. De le voir se cogner contre les murs, de le voir progresser dans cette ivresse, puisque le livre est découpé en plusieurs chapitres avec des grosses ellipses, et à chaque fois on monte une marche un peu dans son degré d'ivresse, et on passe de l'alcool gentil mondain un petit peu léger où on comme ça à vraiment les cauchemars et les délires très minces et tout ça. Au fur et à mesure, on rentre aussi dans sa tête, dans son, dans ses remords, dans ses culpabilités, dans son...
Oh, si peu de remords, si peu de culpabilité.
Ben, il est quand même hanté par, par les gens qui tuent, par, il y a un petit... Il y a une espèce de monde parallèle qui s'ouvre.
Alors justement, parlons de la forme d'ailleurs tout de suite de cette bande dessinée et de votre collaboration avec votre collègue belge Olivier Schroen qui vient mettre de la couleur dans votre univers en dessin fin, votre très fin en noir et blanc, mais je suppose qu'il n'est pas seulement coloriste dans cette aventure.
Tout le livre a été écrit à trois et on l'a dessiné à trois et c'est lui seulement, Olivier Schroen, qui fait les couleurs. Et pour l'écrire, on a pris le parti pris d'emblée. Si vous voulez, quand on écrit une histoire, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a le début, on a la scène finale, on a quelques scènes au milieu, et le travail de scénariste va être de raccorder un petit peu tout ça et faire une histoire simple, en mettant tous ces boules en bout à bout. Là, on a décidé de faire autrement. On a écrit le chapitre 1. On a décidé voilà, de faire confiance à ce personnage parce que le bande dessinée vraiment est centré sur lui. Et donc on a écrit le premier chapitre. On n'a pas essayé de chercher à savoir où ça allait. On a écrit notre deuxième chapitre ensuite sans chercher à aller plus loin. Genre vraiment, tant qu'on n'avait pas, donc on ne savait pas ce qui se passait dans le chapitre 2, on n'écrivait pas le chapitre 3. Et on a effectivement mis entre chacun de ces chapitres des grandes ellipses de temps pour, si tu veux, faire avancer et donner un côté un peu plus aventure et que ça, pour que ça avance plus vite.
Let me begin with a hardy ho-ho and a tale that nobody tells well. I've not come all the way from NCINO to be treated like sewage that smells. I'm certainly not that surprised, for this story is older than time. Me peg-legged pirate and brethren and I are society's slug-ridden slime. We've all been cast out as scallywag rogues with fire in our beards and our eyes. There's a side to us pirates that nobody knows, and it's soft as a baby's backside. Some of us just want adventures, the open sea wind in our earrings. Why are we constantly misunderstood? Don't you know pirates have feelings? Poor pirates, P-O-O-R. P-O-O-R. Poor pirates can't deny this simple truth. Poor pirates, P-O-O-R. People too. Nice harmonies, mateys! Think of how hard we have had it.
So hard.
Out on ships there is not much to eat.
Not much to eat.
And dentists hate pirate insurance.
No, oh no, which is why we've so many gold teeth.
We've too many gold teeth. Me laundry stays damp and me boots start to stink. And me fingernails filthy and dirty. Me internet loads unbelievably slow.
And me bedtime's around 7:30. Poor pirates, P-O-O-R. Poor pirates, P-O-O-R.
Le pirate de Rupert et Mulot et d'Olivier Schroen, puisqu'ils sont trois à signer cette bande dessinée éditée chez Dupuis dans la collection Air Libre, Portrait d'un buveur. Guy, lui aussi, il chante plutôt faux d'ailleurs. On sent qu'il chante comme une casserole. On a parlé de ses turpitudes, on a parlé de son côté cruel et presque inconscient d'ailleurs. Hein. Il est tout à la fois très cruel et très inconscient.
Mais c'est pas qu'il est inconscient, c'est qu'il est sous en fait. Il a la bêtise de l'homme bourré et ses chansons, c'est plus des chansons qu'il fait subir en fait aux gens autour de lui. Les gens subissent son ivresse.
Ouais, mais il continue à chanter pour avoir aussi de l'argent, c'est-à-dire qu'il est...
Ah oui, tout au début, ouais. Au début, ça, c'est la chanson de présentation où il chante, mais c'est pareil, c'est à la fois bête et, voyez, un petit peu cette...
Mais vous l'aimez, ce Guy? Est-ce que vous l'avez aimé? au fur et à mesure que vous avanciez dans ce récit. C'est quelque chose, c'est un personnage qui peut être attachant.
Bien sûr. Alors nous,
bien sûr. Ça mérite explication. Hein.
Non, bien sûr. Mais nous, on n'essaye pas de le faire et de le faire aimer. Moi, je l'adore. Je trouve qu'il est. Mais j'essaye pas non plus de me l'excuser sa méchanceté. Plutôt, pour moi, c'est plutôt un artiste de la bêtise. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans la bêtise. C'est quelque chose qui est effectivement qui est intéressant en tant qu'auteur à explorer. Et lui, il est juste magique. Et il y a ce phénomène un petit peu quand on fait de la bande dessinée de créer un personnage et puis de le dessiner, vu qu'on n'est jamais parfaitement sûr de sa main. Il y a toujours des accidents quand on dessine, et pareil quand on écrit un personnage. Et il y a un petit peu un phénomène où le personnage prend vie devant soi. Et c'est toujours un moment assez particulier quand on fait un livre. Et lui, je sais que c'est un moment donné qui a été compliqué avec Olivier Schrawen. Le bouquin, on avait failli l'arrêter plusieurs fois. Je vais pas vous mentir. Mmh. Et je crois que c'était ça. C'était que, en fin de compte, c'est un personnage qui est tellement compliqué.
Vous étiez peut-être le seul à l'aimer, hein, Florent.
Rupert. Non, je pense qu'on.
Jérôme Bulot est avec nous. Dites-nous, parce que il vient de nous déclarer une passion amoureuse pour un personnage très antipathique, assassin.
Non, mais après, il y a différentes façons d'aimer un personnage. Effectivement, il y a ce qu'il représente et ce qu'il fait et ce qu'on lui fait faire. Il y a aussi une plasticité du personnage, c'est-à-dire que ça reste aussi une marionnette qu'on déplace, avec laquelle on joue. Et donc là, c'est Olivier qui s'est occupé de le dessiner, tout ça.
Et pourquoi il a failli arrêter? Pourquoi vous avez failli le laisser tomber, ce personnage?
Parce qu'à un moment donné, ça a dérivé vers quelque chose de peut-être trop comique, justement, où on se moquait de lui, on se moquait de son ivresse, on lui faisait peut-être des crocs en jambes. Où il avait trop d'assurance et se mettait à.
Et qu'est-ce qu'on fait dans Paralita?
Il se mettait à être sympa, en fait, et c'était pas.
Ouais.
Il fallait toujours quand même faire attention de pas déformer sa réelle personnalité qui est pas celle d'un mec sympa, c'est sûr. Ouais.
Alors, le découpage de cette histoire, je rappelle, donc, portrait d'un buveur, on retrouve un peu votre patte, hein, c'est-à-dire des cases dans des cases, mais cette fois-ci, il y a des ruptures de ton et de couleur. Est-ce que ça répondait à quelque chose? Est-ce qu'il fallait comprendre quelque chose à ce traitement de la couleur qui intervient d'une manière plutôt aléatoire, hein? C'est-à-dire à force de chercher une explication, on finit par laisser tomber parce qu'on est pris par l'histoire et surtout par les cruautés de votre pirate.
Mais oui, c'est ça. Il fallait pas chercher à comprendre. Il fallait juste ressentir.
Ouais, et puis elle agit un peu comme pourrait agir la musique d'un film. On dit toujours qu'une musique est réussie quand on l'a pas entendue. En fait, c'est que elle a glissé avec la séquence, avec la narration. Elle a mis des impressions, elle a ramené de la sensibilité, elle a ramené de la couleur ou du contre-jour ou des choses, mais qui n'embêtent pas la fluidité du récit et qui viennent juste la porter, la glorifier, là, je sais pas comment dire. Ouais.
Ah, parce que donc si je décris un petit peu, en fait, là, cette question, elle vient du fait que, en fait, il y a des cases en noir et blanc et il y a des cases en couleur, ou des fois il y a des cases en noir et blanc.
Ouais,
voilà, ou des fois des juste toute la page est en noir et blanc et certains juste un décor va être en couleur. En fait, les choix sur la couleur, pourquoi il y a des endroits où il y en a et des endroits où il n'y en a pas, c'est uniquement utiliser la couleur pour ce qu'elle donne d'impression émotionnelle et ce qu'elle va avoir comme influence sur ce qui se passe à l'intérieur des personnages. On utilise souvent cette technique qui est pas nouvelle, hein, que Vincent Van Gogh, par exemple, il fait très bien, c'est d'utiliser le décor et les couleurs pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur du personnage. Et donc nous, on est souvent là-dedans. On va utiliser des couleurs même très clairement dans la collaboration. Pour nous, c'était assez dur parfois parce que nous on fait pas de couleurs, on sait pas très bien faire ça. Mais donc là, lui, Olivier Schrawen faisait toute la couleur et nous, on arrivait. L'organisation du départ, c'était comme ce qu'on avait fait avec Bastien Vivès quand on a fait la Grande Alice Olympia.
Deux tomes, toujours chez Dupuis dans la collection Air Libre.
Là, ce qu'on avait décidé, c'est de faire comme avec Bastien Vivès, c'est-à-dire, nous, Rupert et Mulot, on fait les décors, et Olivier Schrawen fait les personnages. Et les personnages principaux et les personnages secondaires, on se les partage. Donc c'est comme ça qu'on avait fait avec Bastien. Avec Bastien, c'était hyper efficace. On a fait un livre en petit peu moins d'un an. Ça roulait comme, comme du papier à musique. Avec Olivier Schreien, c'était l'inverse. Le livre a mis 3 ans à se faire. Et lui, il a un rapport, une façon de travailler qui est vraiment pas du tout comme la nôtre. Il est... bon, il est un peu fou, je crois, dans sa façon de travailler. C'est vraiment un artiste au sens romantique. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre un chapitre entier qui est super bien. Nous, on a cette tendance avec Jérôme de, quand on fait un dessin, de, voilà, quasiment l'encadrer. On aime trop, voilà, parfait. On est beaucoup de préparation, mais quand le dessin est fait, voilà, faut surtout pas y toucher. Et lui, il est capable de prendre un chapitre en entier, le mettre à la poubelle ou reprendre des dessins et retravailler, mettre, il fait des couleurs à la gouache. Sur nous, des décors où avec tout est fait au trait hyper précis. On a fait des études pour représenter Bruges, le Bruges de l'époque, avec les salissures, les épluchures de pommes de terre, tout au détail près. Et lui, il arrive et il met de la gouache partout. On ne voit plus rien au dessin. Et il a fait ça sur tout le livre, en fait. Et donc, pour nous, c'était assez...
Et puis il y a une idée très originale qui rend le portrait d'un buveur vraiment comme un livre très à part, c'est que, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de crimes, c'est assez gore, même s'il y a une dimension guignole, mais ces crimes atroces dans cette aventure vous donnent une idée, vous permettent d'avoir cette idée, mais vraiment audacieuse, c'est de donner vie aux morts, si j'ose dire, car il y a un deuxième récit qui accueille au fur et à mesure les victimes de Guy, des morts en décomposition qui vont être transformées en voyeur des turpitudes du pirate assassin.
Je me souviens très bien que quand on a commencé la collaboration, Olivier voulait qu'on fasse un livre assez expérimental, assez proche de nos premiers travaux qu'il aimait bien. Et,
à l'association.
Voilà, donc avec des plein de petites cases et puis des découpages comme ça un peu compliqués. Et nous, à l'inverse, on était à ce moment-là dans une volonté de faire des récits plus linéaires et plus, plus dans la construction de ce qui est raconté et avoir une mise en case assez simple. Donc, lui, malgré tout, voulait qu'il y ait des choses expérimentales dans le truc et on avait repensé dans ce qu'on avait fait à Sol Carlus où, à l'intérieur dans les ellipses dont on parlait, dans les entre-chapitres, de faire des espaces qui résument, qui accompagnent, qui viennent mettre un...
Non mais cette idée de
ponctuer le récit.
Ouais, mais cette idée de dire les morts, voilà. C'est-à-dire quelque chose de tragique, ils vont continuer à vivre, ça, je pense que ça adoucit le côté assez gore de votre histoire.
Ça l'humanise en fait, c'est que ça vient... Effectivement, l'autre jour, Florent, tu parlais de la magie noire qui existe quand tu tues quelqu'un. Effectivement, cet acte-là reviendra toujours te hanter, et quelle que soit ta trajectoire ensuite, t'emporteras toujours la responsabilité, ça sera inscrit en toi. Et que, effectivement, à des degrés divers, tout ce qu'on fait revient toujours un petit peu comme des pensées cauchemardesques, comme des petites fièvres qui remontent comme ça de temps en temps. Et là, sous le prisme de l'alcool, comme il est dans une fièvre un peu progressive et de plus en plus forte, que ces pensées-là qui le hantent se pourrissent et enfin macèrent dans son esprit, ça venait vachement humaniser en fait ce côté très froid et qui peut être mécanique, quoi. Comment on tue quelqu'un en bande dessinée, il s'agit pas juste de planter un coup de couteau dans le dos, il faut que cet acte-là soit charnel et finalement soit vraiment à l'intérieur de son corps comme une lente macération de feuilles de compost.
Portrait d'un buveur. Schraouan, Rupert, Emilo. Rupert et Emilo, ça fait maintenant quelques années que vous formez le vieux couple de la bande dessinée indépendante, avant-gardiste. Vous êtes connus à Dijon pendant vos études. Ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez ensemble? Une quinzaine d'années?
Notre premier livre est sorti en 2005.
Presque 15 ans.
Presque 15 ans.
Vous avez l'impression de vous connaître de mieux en mieux ou...
Comme les vieux couples, quoi. On se connaît par cœur. Je sais ce que va dire Jérôme avant qu'il le dise.
Jérôme, alors?
Ouais, ça, c'est vrai, effectivement.
Et c'est édité bien sûr par Dupuis dans la collection Air Libre. C'est la bande dessinée qu'on vous recommande vivement cette semaine. Merci d'être venu, Rupert Émulot.
Merci de nous avoir invités. We'll be right back.